Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE, et pas seulement, on vous propose plein d'autres trucs. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de votre émission mensuelle, le gros pré-show. On va parler du prochain Premium Live Event de la WWE qui arrive ce week-end, le 5 juin. Hell in a Cell 2022, et pour m'accompagner dans cette belle aventure, je suis accompagné par le patron, Irem. Comment que ça va, Irem?
Salut Ringside, ça va super bien là, on est à quelques encablures du pay-per-view le plus incroyable de ce mois de juin, et je suis ravi de faire participer à ce gros pré-show.
Gros pré-show. Et nous ne sommes pas que deux, nous sommes trois, notre nouvelle stagiaire. Notre rookie, notre atout charme, Letty, comment vas-tu?
Ça va très très bien et super contente de participer à ce gros pré-show de Hell in a Cell.
Parfait. Alors vous connaissez le principe du gros pré-show, on va parler des news qui ne vous intéressent pas, on va revenir un peu sur le passé et puis on fera les pronos, surtout les pronos de Hell in a Cell. On va vous dire hein, qui sont nos favoris, qui sont les personnes pour lesquelles on a aucun espoir.
Tout ça, dire qui va ça, gagner tout simplement, hein, voilà.
Puis, qui va gagner, ouais, on veut savoir qui est le gagnant, c'est ça l'histoire. Alors, on vous rappelle qu'on a en ligne quand même tout de suite, avant de démarrer, qu'on a un You Talk Too Much qui est en ligne avec le patron d'Aya Catch, l'école de catch qu'elle vend en poupe en ce moment. Allez écouter ça, tous les secrets un petit peu de ce qui se passe au niveau du catch français, au niveau du catch en général, comment en fait le catch, c'est un peu l'école de la vie. Allez découvrir ça, c'est en ligne sur YouTube et toutes les bonnes plateformes de podcast. Mais revenons à nos moutons. Les news de ce mois-ci.
Alors, est-ce qu'elles sont fraîches?
Alors, il y en a qui sont fraîches, il y en a qui sont moyen fraîches, mais en tout cas, elles sont là. Et voilà, et ça fait causer. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde du catch là, ce mois-ci. Alors, on va démarrer avec la All Elite Wrestling. Parce qu'on a eu leur gros pay-per-view. Ils en ont que 4 hein, dans l'année. Donc c'est le moment d'en parler, c'est là qu'il s'est passé plein de choses. C'était Double or Nothing, ça a eu lieu le week-end dernier, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? 5 heures de show, c'est assez énorme. Oui, ils ont pas trop retenu les leçons non. De la WWE hein. Si on faisait un show interminable d'une journée,
qui récupère les anciens catcheurs de WWE et aussi les anciennes mauvaises idées de la WWE, d'accord.
Voilà,
c'est un concept hein.
C'est un concept, voilà, les pay-per-view interminables. Donc, la WWE en est revenue, mais la All Elite, elle va faire son petit passage par là. Bon, la grosse news, c'est quand même CM Punk qui devient champion de la All Elite Wrestling. Il a battu Hangman Page, le champion en titre.
Place aux jeunes
dans un match qui a fait couler de l'encre, hein, parce qu'il y a eu quelques gros botches de CM Punk qui a essayé de reprendre les prises d'Hangman Page, hein, qui sont un petit peu acrobatiques. Alors lui, il fait son âge maintenant, CM Punk. Hein, donc c'est pas facile, mais bon. Hein, c'est lui le champion maintenant, donc il faut l'accepter. Est-ce que vous êtes heureux de voir CM Punk arriver au sommet de nouveau du côté de la All Elite Wrestling? Ou est-ce que c'est trop classique pour vous tout ça finalement? Irem peut-être?
Ah, ouais, donc moi je l'ai vu ce pay-per-view. En tout cas, j'ai regardé les matchs qui m'intéressaient le plus, parce que 5 heures, comme tu l'as dit, c'est beaucoup, beaucoup trop. Que dire, effectivement, le règne de Hangman Page avait l'air un petit peu mou. C'est une bonne idée quand même. C'est comme une grosse star, CM Punk. Clairement, il était, c'est un des chouchous, des favoris du public, des suiveurs de la AEW. J'ose espérer que ça va surtout permettre à mettre en avant d'autres jeunes qui iront se coller à CM Punk en soi. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Ça apporte de l'attention, les spotlights sur la Fédé avec un catcheur mainstream, on va dire, hein, qui a un gros passif, qui a un bon talker. Et puis maintenant, voilà, tu vas utiliser ce mec-là comme tu avais fait un petit peu avec Jericho à l'époque. C'était de faire un passage en revue de tous les petits jeunes qui vont venir se frotter auprès du vétéran, notamment un qui va être son... Il pourrait être son némésis tout trouvé, mais dont on n'est peut-être pas encore sûr qu'il sera toujours là dans les mois à venir. Je pense évidemment à MJF.
Ouais.
Mais ouais, pour moi, c'est une bonne idée. Hein. Franchement, CM Punk, au-delà du match, je trouve que
Ça paraît logique de mettre CM Punk en champion de la All Elite Wrestling, hein, une fois que tu l'as signé. Il y a peut-être que Daniel Bryan, bon, Moxley évidemment, qui a son niveau au niveau de star, du Star Power avec Jericho et compagnie, mais bon, CM Punk, il y avait quand même toute une aura autour de son retour, etc. C'est un peu le catcheur maudit de la WWE qui revient triomphant à la All Elite Wrestling. Donc, on espère qu'effectivement, ça va surtout servir à faire monter encore la All Elite Wrestling finalement. Le reste des résultats un petit peu en vrac. Adam Cole remporte le tournoi Owen Hart face à Samoa Joe quand même. C'était plutôt un bon match, hein. Version Ring of Honor. Britt Baker remporte le tournoi féminin. Ça, c'était un moins bon match, mais bon, il faut passer par là. Donc le Heat Couple, hein, Adam Cole, Britt Baker qui remporte le tournoi Owen Hart. Ouais, bah c'était pas. Je sais pas si ça a un quelconque intérêt au final tout ça, hein. À part mettre un petit peu de nous rappeler qu'Owen Hart a existé quoi.
Ouais, je sais pas ce que Letty en a pensé, mais moi de mon côté, enfin en pense de ça. C'est ouais, c'était.
On
Enfin,
a eu
c'était.
un beau Adam Cole Samoa Joe.
Ouais, voilà, t'as eu une belle rencontre. On a misé sur le couple, voilà, un des couples forts de la AEW. Il y a quand même. Enfin voilà, on peut pas dire qu'on n'aura pas rendu hommage à Owen Hart pendant les dernières semaines là, à l'Elite Wrestling, qui a l'air d'être très porté sur justement ça, toi, rendre hommage, l'héritage du catch. Hein, donc c'est aussi bien pour nous, pour les spectateurs et pour nous de voilà, de continuer à commémorer tous ces mecs qui ont contribué de façon parfois tragique, en l'occurrence, là, du côté de la famille des Canadiens. Et puis, c'est aussi toujours des bons prétextes pour garder le spotlight sur des main eventers, là, en l'occurrence, Britt Baker. Voilà. Britt Baker qui a pas de ceinture, bah, tu lui refiles ça.
Ouais,
Après, c'était
tu as
assez
fait sa
marrant.
petite victoire sur le tournoi, Adam
Voilà.
Cole aussi pareil, hein.
Bien sûr, Adam Cole qui avait rien. Bon, bah, ça occupe tous ces gens-là. Après, j'ai pas très bien compris l'histoire des. Alors, t'avais deux ceintures plus la coupe. C'était un petit peu le gros gâteau, quoi. C'était un petit peu le gros
Ouais,
gâteau.
c'était un petit peu rococo tout ça.
Ouais, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Letty, de tout ça.
Moi, après, je ne suis pas forcément la WWE. En fait, je regarde un peu les résultats comme ça, quelques petits highlights, on va dire, sur YouTube ou des choses comme ça, mais je ne suis pas particulièrement, enfin, j'ai pas vu pay-per-view, donc j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire pour le
Ouais,
là-dessus.
bon, de toute façon, bon. Personne va te le reprocher. Hein. Moi, j'ai beaucoup zappé et puis je regarde plus les weekly. Donc, pourtant, je m'étais pas mal emballé la première fois que j'ai fait une analyse. La IDOP, enfin, ça reste quand même un très bon programme de catch, quoi. Y a pas à en douter. Maintenant, voilà, c'est analyser ce qu'ils font. Effectivement, bon, bah, ce tournoi-là, c'est cool. Franchement, si
Ouais,
la
il y a eu des bons
WWE,
matchs.
bah ouais.
Voilà.
Si tu repartes, si à la WWE, on pouvait retrouver justement l'attrait et tout le glamour que tu peux avoir autour de gros tournois comme il y avait pour le King of the Ring, toi. Enfin voilà, faites revenir le King of the Ring ou des tournois qu'on avait aussi bah, à NXT.
Ouais.
Alors je sais que c'est très compétitif, c'est des choses peut-être qu'à WWE ne recherche plus trop, mais c'est souvent l'occasion de faire briller des mecs qui n'ont plus de ceinture, puisque de toute façon il n'y a plus de ceinture à WWE donc.
Ouais, c'est vrai.
Ça pourrait
Ouais, moi je
remplacer.
serais pas contre. Je serais pas contre un Cruiserweight classique, moi, hein, de nouveau. Hein. C'était une belle réussite à l'époque.
Ouais, bah oui, c'était pas mal ça. Hein.
Les
Oui,
tournois
n'importe quel type de
féminins, tout
tournoi.
ça,
Oui,
c'était
le
sympa.
Mae
Moi, je
Young,
serais.
c'était cool ça, Mae Young.
Puis c'était
Toi.
une plus-value sur le WWE Network, hein. On savait pourquoi on le payait à l'époque. Que maintenant,
Ah
il n'y a
ouais,
plus
c'est plus.
grand-chose de neuf qui sort, hein, honnêtement.
Ouais, c'est vrai qu'il y a plus grand-chose. Hein. On va en reparler peut-être tout à l'heure avec NXT, mais ouais, on paye
Ouais.
pourquoi, on sait pas trop là.
Parce qu'on est sympa. Par fidélité.
Ouais.
Bon, quelques arrivées quand même à la All Elite Wrestling. Hein. Ember Moon, quand même, qui revient
Oui.
sous le nom de Athéna.
Oh.
Elle est en forme. Voilà, elle va s'attaquer à la championne TBS Jade Cargill. Elle a débarqué comme
D'accord.
ça en fin de match.
C'est bien.
Le Mexicain Rush le compatriote de Andrade, El Idolo, hein, avec qui ils avaient formé Los Ingobernables. Bah voilà, ils sont réunis à la All Elite Wrestling. El Toro Branco Rouge. Bon, ça promet quelques beaux matchs, hein, s'ils les utilisent correctement, mais ils commencent à avoir vraiment beaucoup de monde, hein, là, l'All Elite Wrestling, donc il va falloir faire gaffe. Et on a aussi Rousseff qui est de retour, ça s'est passé à Dynamite. Et il a affronté John Morrison quand même. Hein. On avait un classique WWE là. John Morrison sous le nom de Johnny Elite.
Oui, il s'emmerde pas lui.
Ah, ouais, bah, à chaque fois qu'il va quelque part, il change de nom. Là, il sait pas... bah, c'était Johnny Impact à Impact.
Johnny Impact, Johnny quoi, Johnny Lucha, non, comment il s'appelait
Johnny Mundo. Johnny
Mundo. Johnny Mundo.
Bon, il s'appelait Johnny Nitro, il serait plus appelé Johnny Dynamite. Hein, mais c'était pas.
Ah oui.
Peut-être moins classe que Johnny Elite, je sais pas.
Ah, j'avoue.
Voilà. Bon, il a pas signé, il fait des petites piges, hein, John Morrison.
Oui.
Et Rousseff, il doit faire une grosse pige, je pense. Je sais pas. Peut-être qu'il revient de blessure, mais en tout cas, c'était un peu ce qu'il y avait de mieux, Rousseff, à une époque. Enfin, c'est Miro maintenant, hein, à la All Elite Wrestling. C'était un peu ce qu'il y avait de mieux. Donc, bon, ça donnera peut-être un nouvel attrait à Dynamite. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un crossover là qui se profile avec la New Japan Pro Wrestling, avec un pay-per-view qui va s'appeler Forbidden Doors, si je dis pas de bêtises, qui arrive à la fin du mois. Et on va quand même avoir un dream match, hein, puisque Hiroshi Tanahashi est venu défier CM Punk. Donc, quand même un Tanahashi CM Punk. Ça, c'est quelque chose que je pensais pas voir.
Ouais, en 2022.
En 2022, surtout. C'est dommage que c'est pas arrivé, genre, en 2015. Mais, parce que les deux sont quand même, ils font leur âge, hein, les deux, quand même, d'un côté comme de l'autre. Mais bon, on va aller regarder ça comme ça. On espère qu'ils vont faire quand même un gros match. Il y a Kazuchika Okada qui est prévu pour affronter Hangman Page.
Oh.
Donc ça peut donner aussi un gros gros match. Alors les crossovers entre la New Japan et des fédés américaines, il y en a eu beaucoup sur les dernières années quand même. Ils font comme si c'était nouveau, mais bon, tous les ans il y avait les crossovers entre la New Japan et la Ring of Honor.
Oui, une fois de plus, ils n'inventent rien ces gens-là.
Et non, c'est que du réchauffé, hein, que de la poudre aux yeux.
paye ton innovation, attends.
Voilà, donc bon, on va regarder quand même, mais. On sait ce que ça donne, c'est pas si généralement c'est pas aussi explosif qu'on aimerait. À chaque
fois. C'est des affiches de gala.
Ouais, voilà.
Pour donner ces fameux dream matchs que tu pensais impossibles.
Alors à mon avis, le match entre Okada et Hangman Page sera peut-être plus impressionnant que le Tanahashi Punk.
Oui, surtout qu'ils se connaissent, mais ils sont quand même déjà croisés sur le circuit japonais, donc.
Ouais. Donc voilà, on va quand même suivre ça du coin de l'œil. Tu suis pas du tout le catch japonais, je suppose, Letty.
Pas trop, non. Non, j'ai pas trop le temps.
Pas de Tanahashi, pas d'Okada.
On t'en voudra pas non plus.
On t'en voudra pas non plus. Il y a eu des belles heures, mais.
Oui, ils ont eu des belles heures, mais en 2022, la NJPW.
Voilà, elle essaye de rattraper le wagon de l'AEW, mais. Avec le Covid, tout ça, c'est pas facile. On en reparlera un petit peu après. Mais on va venir sur la vraie grosse news de la All Elite Wrestling. Qui a fait mariner un petit peu tous les fans de catch. Qu'est-ce qui se passe avec MJF? C'était le gros scandale du week-end. Maxwell Jacob Friedman, donc le top heel, on va dire, de la All Elite Wrestling, qui était en rivalité avec Wardlow, son ancien homme de main depuis quasiment 2 ans. Double or Nothing, c'est la conclusion de leur rivalité. Mais MJF se plaint depuis un bon moment de son traitement à la All Elite Wrestling, notamment au niveau du salaire. Il explique qu'il n'est pas assez payé, hein, tout simplement, parce que...
Au SMIC.
Voilà, au SMIC quasiment, le gars. Donc ça va pas du tout, parce qu'il dit qu'il est un des plus gros draws, comme on dit, de la All Elite Wrestling. C'est lui qui fait monter les audiences. Hein, c'est prouvé hein, dans l'étude minute par minute, il est deuxième. Hein, apparemment, il y en a un qui est au-dessus de lui, mais on ne sait pas qui c'est. Mais c'est lui qui rapporte le plus de dimat. Donc, il n'est pas venu à un meet and greet, en rencontre avec les fans, le samedi avant le pay-per-view. Il était prévu, il n'est pas venu. Il y a une rumeur qui disait qu'il avait acheté un billet d'avion pour se barrer. Peut-être qu'il ne serait pas au pay-per-view, etc. etc. Suspense. Finalement, il est arrivé, il a fait l'opener. Il s'est fait squasher par Wardlow. Il a pris 10 powerbombs, donc c'est pas un no-show, mais il a pas fait grand-chose à part se faire éclater. Mais il a quand même fait de la psychologie et tout ça. Il a fait son taf de catcheur. Et à Dynamite, il a débarqué. Il a fait une promo l'équivalent de la Pine Bomb de CM Punk. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Voilà, il a
craché. Je l'ai regardé hier dans mon lit, toi.
Ah bah voilà, tu vois, c'est difficile de pas l'avoir vu. Où il a craché bah tout ce qu'il avait sur le cœur, hein, c'est-à-dire comme je vous ai dit qu'il était pas assez payé, qu'on lui reprochait d'être un mauvais catcheur parce qu'il faisait pas des cabrioles comme reste de la All Elite Wrestling, qu'il faisait pas tomber ses adversaires sur la tête, qu'il était safe dans le ring. Mais du coup bah on le qualifie de pas assez spectaculaire, etc. Voilà, il dit quand même que c'est lui le meilleur, il dit qu'il veut partir, il dit qu'il veut être viré. Voilà, il dit que les gens, même que les boys dans les coulisses veulent sa place, qu'ils sont contre lui. Donc il termine par dire, si vous voulez ma place, prenez-la. Moi, je veux plus rester ici, je veux me barrer. Il lâche des gros mots, hein, des fuck et des tout ça à l'antenne de la télévision. C'est pas banal. Son micro est coupé, hein, à l'instar de CM Punk à l'époque de la Pipe Bomb, souvenez-vous. Et donc voilà, la grande question, c'est de savoir, est-ce que c'est un work, est-ce que c'est réel tout ça, est-ce que vraiment MJF veut se faire virer alors qu'il est un petit peu au top à la All Elite Wrestling. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, est-ce que vous croyez au work, est-ce que vous croyez que c'est réel, est-ce que vous avez eu le temps d'analyser tout ça, Irem peut-être?
Bah écoute, une fois de plus, si c'était pas un work, ça le devient, par la force des choses. Ouais. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer qu'une fédération de catch comme la AEW ne capte pas ne capte pas l'intérêt que et tous les bénéfices qu'elle pourrait retirer d'une telle storyline pour à son bénéfice, quoi. C'est-à-dire que tu veux pas laisser un mec comme ça qui effectivement est très populaire et qui te crée un angle qui va occuper ton cœur de cible. Enfin, clairement là, c'est c'est ce que fait la MJF, c'est pile ce que veulent et ce qu'aime l'audience, le public de la IDOB. Toi, c'est pas comme à l'époque de la WWE quand il y a eu la Pipe Bomb, où effectivement, t'avais...
C'est sorti de nulle part, la Pipe Bomb.
Ouais, voilà, ça sort.
Hein, donc ça couvait, on le savait légèrement, peut-être que CM Punk était pas content, mais on s'attendait à aucun moment à avoir une promo aussi percutante, puis qui a marqué l'histoire. Hein, parce que,
bien sûr.
Rien n'était plus pareil après.
Donc là, moi, pour moi, enfin, clairement, on est dans un work, quoi. Enfin, après, c'est tellement, tu sais, tout se mélange aujourd'hui, donc.
Peut-être qu'un jour, il s'est plaint.
Non, mais oui, voilà. Et puis, le mec, il s'est plaint. Et puis, c'est un jeune aux dents longues. Et puis, la AEW, ils sont pas bêtes. Ils savent que ils peuvent construire sur ça, toi. C'est un petit jeune qui, effectivement, est au top de sa popularité. Qui doit re-signer qui veut renégocier son contrat, et ben voilà, là il y a une storyline toute faite. Enfin,
ouais.
Tout se mélange, la réalité et l'écriture, tout se mélange dans le catch encore plus aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux et l'interaction que tu peux avoir les fans et les news et les dirt sheets. Et donc là clairement tout s'écrit. Et en plus si tu lis tout ça au champion actuel,
ouais,
qui est à l'origine de ce genre de... Voilà, comme tu l'as dit, avec sa Pipe Bomb qui est restée, qui a marqué l'histoire et qui a créé presque un genre, toi, de storyline. Même si ça existait avant, hein, les mecs qui faisaient des Pipe Bomb, on n'a pas attendu CM Punk. Mais voilà.
Jamais personne l'a exécuté aussi bien que CM Punk.
Oui, c'est... Mais bien sûr, c'était le maître étalon de ce genre de storyline et d'angle. Pour le catch, là, clairement, MJF, il se situe là-dedans. Et moi, je le vois très, très bien aller chercher CM Punk dans leur prochain... Voilà.
Enfin, ouais. Je pense, ça ressemble quand même à une construction très élaborée.
Il y a trop de choses. Comme tout ce que tu as décrit, là, le mec qui ne va pas au truc des fans. On balance des rumeurs comme quoi il n'a pas pris l'avion. Mais en fait, le mec, il vient quand même. Ah, puis il se fait squash. Ah, c'est bizarre quand même, il se fait squash. C'est pour le punir. Ah non, mais non, voyons. Tout ça, c'est une construction parfaite. Ouais, bah ouais. Ça se trouve, on va le voir à la WWE.
Ouais. Semaine prochaine, il vient pas à Dynamite. il reviendra plus, c'est ce qu'il a dit. Mais son contrat, alors concrètement, son contrat s'arrête en 2024. Alors moi, je veux bien qu'il renégocie son contrat, mais enfin qu'il essaie de renégocier son contrat maintenant, mais ça fait un peu tôt quand même, 2 ans avant. Maintenant, c'est sûr que, à mon avis, il a un salaire qui est en dessous de ce qui est ce qu'il vaut, puisque il a été signé au tout début de la All Elite Wrestling et qu'il n'était pas du tout connu, MJF. Il avait brillé à All In dans l'opener. Mais bon, on avait bien compris qu'il y avait quelque chose derrière ce gars-là, mais c'était pas du tout acté que c'était la nouvelle star de la All Elite Wrestling qui ferait bouger les ratings, quoi. Ça s'est précisé concrètement avec le temps. Mais bon, là, en plus, il y a quand même CM Punk qui a débarqué à la fin de sa promo pendant la pub. Ça, je sais pas si t'as vu ça dans la version que t'avais.
Il est arrivé, CM Punk est arrivé après.
Ouais, pour le courser et MJF sauver. Ouais, alors il est arrivé piteusement, CM Punk, il était pieds nus, juste avec un t-shirt sur le dos, ses genouillères descendues sur les chevilles, il arrivait pas à marcher, il boitait à moitié.
Oh là là.
C'était pas là pour le coup, c'était pas la meilleure exécution. et ça faisait un peu fake quand même, quoi. Donc ça ouais. Ça tue un peu le truc, mais bon, ils l'ont pas passé à la télévision, ça, intelligemment, c'était pendant la pub. Est-ce que toute cette agitation là autour de la All Elite Wrestling, ça tend à t'intéresser au truc, toi, Letty, à aller jeter un coup d'œil, ou s'il faut qu'il fasse plus encore?
Non, mais c'est vrai que ça m'a quand même pas mal intéressé. Puis tous les sites en ont parlé, donc c'est vrai que ça, forcément, on est, voilà. Puis je pense que le public aime ce genre d'histoire, mais oui, je pense qu'il y a moyen d'attirer du nouveau public. Moi, en tout cas, ça me donne un peu envie d'aller voir ce qui se passe.
Et t'as des bons souvenirs de la pipe bombe de CM Punk? Tu l'as vécu, ça?
Oui, je l'avais vu. Et puis, non, c'était pas mal. Et puis, là, le fait qu'il y ait CM Punk, justement, en champion, voilà, je suis un peu d'accord avec vous. Je me dis que ça doit être relié, forcément, même s'ils essayent de faire passer le truc autrement. Mais je pense que c'est pour en arriver là, en fait. Peut-être pas au prochain tour, mais peut-être celui d'après. Arriver entre les deux.
Storyline très élaborée. Alors que
elle a plein de choses.
Ouais. Alors que débarque au plateau Monsieur Papy.
Je crois qu'il a été débarqué du plateau, il est rentré, il est ressorti. Letty lui a jeté un regard, il y a son fils qui était pas le bienvenu.
Oups, il a trompé de porte.
Mais non.
Letty, c'est bien, elle a pris le siège de Papy. Alors, tu sais, Papy, il veut pas crier.
Je n'oserais pas.
Non, mais c'est, il est soumis, Papy. Attention, tu peux lui piquer sa chaise, il dira rien, t'inquiète pas.
Bon, bah, vous ferez des surprises quand il rentrera un peu plus tard. Chers auditeurs. On continue dans les news qui, de toute façon, n'intéressent pas Papy. Hein, faut pas déconner.
C'est pour ça qu'il est reparti. Il a entendu qu'on parlait de la Hidden. Il s'est dit, voilà.
On va au Japon vite fait, parce que là aussi il se passe des trucs dégueulasses. Alors ça, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Kota Ibushi, souvenez-vous, qui avait participé au Cruiserweight Classic dont on parlait un peu plus tôt, ancien champion IWGP, qui s'est blessé dans la finale du J1 Climax l'année dernière face à Okada dans un... c'était déprimant, cette finale. Il porte de lourdes accusations contre les dirigeants de la New Japan, en expliquant qu'on l'a forcé à revenir catcher alors qu'il n'était pas prêt, qu'il avait expliqué qu'il n'était pas prêt, que voilà, il n'était pas guéri, il n'était pas à 100%, c'était pas bon, a entraîné cette blessure, et voilà, il veut plus rester à la New Japan, il veut partir, etc., etc. Et ça amène tellement de stress que sa propre mère est tombé malade et qu'il a pas pu, qu'elle a tenté même, je crois, de se suicider.
Oui, elle a tenté de se suicider le jour de la fête des mères.
En plus, voilà. Alors, parce qu'il pouvait pas venir la voir, etc. Très très dur cette histoire. Lourdes accusations de Kota Ibushi via Twitter. La New Japan, via ses dirigeants, qui va faire une conférence de presse. Et s'excuser, comme le font les Japonais, ils baissent la tête, ils disent pardon. Mais bon, ils vont pas libérer Ibushi tout de suite de son contrat. Il a le droit de se reposer encore, d'aller voir sa maman. Ils lui autorisent à aller voir sa maman quand même, ils sont sympas, la New Japan. Mais voilà, une preuve. Alors ça, on le savait, hein, la New Japan, la sécurité de ses catcheurs, c'est pas sa priorité du tout. Kota Ibushi, c'est pas un original de la New Japan Pro Wrestling. Il a pas été formé dans les dojos, etc. Il est parti à la DDT, hein, enfin dans d'autres fédérations japonaises. C'est là qu'il s'est fait connaître. Il a réussi à être champion quand même du fait de sa popularité. Mais on voit que il a pas le droit à un traitement de faveur, c'est pas Okada, et on voit que c'est quand même dur au Japon. Ça vous choque, vous, un peu cette histoire là de mec qui est pris en otage par sa compagnie? Ça relativise un peu les plaintes des autres catcheurs chez nous, non? Enfin, du moins en Occident.
C'est vrai qu'au, enfin, ça a l'air. Après, c'est toujours pareil au Japon. Le rapport à la hiérarchie et... Il y a beaucoup de choses culturellement qui sont différentes. Ouais. Hein.
C'est là qu'on voit la différence de culture. À moins que ce soit tout ça soit un work, mais je crois pas du tout quand même.
Ah oui, le suicide généralement... de la mère de... c'est un gros work en fait.
Ce serait poussé là.
Ce serait poussé le truc un peu loin, c'est d'un mauvais goût. C'est avec Vince McMahon qui fait des trucs comme ça. Mais... ouais, enfin voilà, hein, on se plaint de la WWE, du traitement des catcheurs, mais on voit qu'au Japon, quand on dit souvent un catcheur qui serait heureux au Japon.
Ouais. Après, la différence, c'est vraiment, je ne sais pas, peut-être que toi, tu en sais plus, mais j'ai l'impression qu'au Japon, on a moins ce genre d'histoire, toi, que c'est très secret gardé.
Ouais, c'est le secret.
On les entend
secret,
pas
là.
Se plaindre. On entend pas vraiment les gens se plaindre. Et là, Kota Ibushi, qui était quand même une des figures les plus mainstream du catch. Mmh. Alors, c'est relatif, mais je veux dire, en dehors du Japon, il a quand même fait pas mal d'apparitions. C'était un des catcheurs japonais que tu pouvais qui était le plus accessible, on va dire, pour ceux qui ne suivaient pas des gros suiveurs. Moi, Ibushi, c'était un personnage assez...
Il est dans l'air du temps.
Ouais, enfin, très moderne.
D'Omega, etc. Et il a un catch qui est extrêmement moderne, le physique qui va avec.
Belle gueule.
Gueule, il joue un peu sur les règles, puis les thèmes de jour des jeunes qui parlent plus aux jeunes que nous.
Bien sûr.
Voilà.
Il nous fait un Me Too, quoi, un peu un Me Too japonais, hein, le Ibushi, en ouvrant la boîte de Pandore de tous ces secrets qui régissent un peu le monde de l'entreprise au Japon, y compris le catch où on ne parle pas en fait, on ne parle pas, on s'exécute. Donc là, c'est vrai que tout le monde est un peu dans une position un petit peu délicate et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça. C'est toujours pareil, nous, on n'est pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, là, ce qui est intéressant, si je puis dire, c'est que voilà, un catcheur japonais ose parler et dire que ça va pas, quoi. Et c'est vrai que c'est le côté sombre du catch en particulier, mais puis aussi du monde du travail au Japon, quoi.
Ouais, c'est ça. Le monde du travail au Japon, le catch au Japon. Kota Ibushi qui va peut-être prendre une nouvelle aura de justicier social, hein, au Japon. Voilà. Il met en cause directement un de ses cadres supérieurs. Hein. Le mec est nommé, j'ai plus son nom là, mais.
C'est Kikuchi.
Ouais, Kikuchi Kakashu.
un petit cachot.
Voilà.
Il avait balancé les discussions qu'ils avaient eues, où l'autre il s'est menacé de le virer et tout.
Les mails ont été balancés, donc voilà, c'est crapoteux,
ouais.
Mais c'est aussi ça le Japon. Donc Kota Ibushi, qui verra vivre son futur, sera sûrement pas à la New Japan Pro Wrestling, donc peut-être un contrat à la All Elite Wrestling, hein. C'est peut-être l'occasion d'aller en Amérique, même s'il a toujours un peu freiné des deux pieds pour aller autre part qu'au Japon. Ou peut-être qu'il deviendra l'instar d'une autre fédération et qu'il fera peut-être émerger une autre fédération de catch au Japon. En tout cas, ça donne une sale image à la fédération, la New Japan, la fédération au Lyon. Hein.
On regarde déjà qu'on regardait pas, alors là.
Ouais, alors maintenant, on a envie de les boycotter, quoi. surtout que la finale du Best of Super Junior, c'est Hiromu Takahashi contre El Desperado. Troisième finale d'affilée pour Takahashi et El Desperado. Ils se sont affrontés déjà au moins 15 fois. Et El Desperado, c'est pas très fantastique dans le ring. Takahashi, il revient, c'est pareil, lui aussi, il revient de blessure très très grave où il s'est pété les cervicales. Pas sûr que dans un autre pays, il aurait le droit de catcher, hein, ce bon vieux Takahashi. Hein. Mais voilà, la New Japan, hein, l'âge d'or, c'était il y a quelques années. On espère qu'ils vont mettre de l'ordre dans tout ça. Papy, t'es là ou t'es pas là?
Je suis là, vas-y, vous m'entendez?
Ah,
Allô,
bonjour
bonjour,
papy.
bonjour, bonjour petits enfants.
Ça va bien?
Ça va? Bah oui, je suis arrivé, ça parlait de noix de cajou, de mec qui chie ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. Je
Oui,
me
bah
suis dit,
oui.
je vais pas les interrompre, hein, ils racontent, c'est en train de parler d'une mauvaise expérience à un apéro, je vais pas les embêter.
C'est ça. Bon, t'arrives bien. On va bazarder encore quelques infos sur le Kachindi. Et puis on va arriver sur la WWE, hein, doucement mais sûrement.
Ça me va, c'est parti. Oui,
Voilà. Allez, fait divers. Jack Atlas. Vous vous souvenez de Jack Atlas?
il avait fait des piges à NXT, lui, non?
NXT, voilà. Il a été un petit peu à la All Elite Wrestling. Je crois qu'il avait re-signé là-bas. Bah, il s'est fait arrêter, hein, pour violence domestique sur son compagnon.
Ah,
Donc
bravo.
voilà, c'est un de plus. Hein, on le rajoute à la longue liste. Ce qui est original, c'est que là, c'est deux hommes, hein, qui se tapent dessus. Donc c'est
Ah oui,
son mari.
ça nous change ce
Clairement.
qu'on regarde tous les lundis soir.
Voilà. Le mec peut se défendre, mais bon, si c'est pas un athlète, il a dû prendre aussi. Donc bon. Voilà, c'est pas beau, Jack Atlas. Sa carrière est
On ne
finie,
tape
je
pas sur les
pense.
gens.
Non. Dakota Kai change de nom, elle devient King Kota. C'est original, non?
Bah attends, tu m'apprends un
Akai.
truc. King Kota, Dakota Kai, où ça, mais alors, elle devient King Kota, où?
Alors, pour l'instant, nulle part, mais
Ah
elle a
d'accord,
fait un petit
super.
tweet.
Avec elle se rebrand.
Voilà, elle se rebrand et c'est parti. Elle a une très jolie photo qu'elle a lancée sur les réseaux sociaux. Voilà, bah, on espère avoir des nouvelles de King Kota maintenant, comme on l'appelle.
Tant King Kota, en fait, j'ai tapé et je suis arrivé sur le site d'un fast-food asiatique.
Ah.
King Kota.
Bah, peut-être qu'elle va se lancer dans des.
Attends, c'est un fast-food de bouffe asiatique tenu par des noirs noirs, des afro-américains.
Oh
Qu'est-ce que
bah,
c'est que
c'est
ça?
original d'avoir des Noirs américains dans la cuisine.
Ouais, d'accord. Ok, bah c'est cool pour elle. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais on en avait parlé la dernière fois, Dakota Kai. J'étais un petit peu triste de la voir partir. Donc, on lui souhaite réussite dans ses nouveaux projets.
Ouais. Un peu. Alors, la réussite n'est pas au rendez-vous, mais enfin, on en a parlé sur le Discord surtout. Enfin, la dernière fois, on avait parlé de Freddie Prinze Jr. qui voulait lancer une nouvelle fédération.
Oui, c'en est où?
Eh ben, ça, on ne sait pas. Mais il y a une autre fédération qui est sortie de nulle part, que personne n'attendait, qui a été mise en place par nul autre que les Authors of Pain, s'appelait
Ah
de
oui.
Ekam et Razar. Eh bien, ils ont lancé leur propre fédération qui s'appelle Wrestling Entertainment Series, WES, pour les intimes. Donc, ils devaient avoir un show en juin, premier show.
Ouais.
Malheureusement, c'est reporté à
Ah,
juillet.
d'accord.
Alors, première date, qu'est-ce qui se passe? Le 4 juin, eh ben, il y a un catcheur de leur entourage qui est décédé. Donc, en hommage, ils ont dit, bon, on va pas le faire tout de suite le show.
Oui,
Ils
t'es plus sur la
reportent,
carte.
voilà, ils reportent une autre date à un autre endroit. Ben, ils se sont rendus compte qu'en 3-4 jours, bouger comme ça un événement, c'était pas possible. Donc, du coup, ils reportent ça au 9 juillet. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'il y a une plâtrée de catcheurs de la WWE à l'affiche. Puisqu'on aura Fandango qui affrontera Noé José. Ça se passe en Angleterre en plus, hein, c'est pas loin. Il y a Mike Kanellis qui affrontera Oney Lorcan.
Oh.
Mojo Rawley quand même contre Lindsay Dorado.
Oh. Magnifique.
Hein, c'est beau ça. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Madison Rayne et Tennille Dashwood, c'était Emma, hein, Tennille
Ouais.
Dashwood. Contre Diona Paruso et Chelsea Green, mais apparemment Diona Paruso pourra pas être là. C'est pas bien grave puisqu'on a aussi Killer Cross. Donc Karrion Kross, hein, qui affrontera Triple Threat, Kalisto et Bronson Reed.
Ah oui, bah, d'accord,
Vous
c'est
voyez? C'est du beau, ça.
En plus, c'est vrai, c'est bien ça comme match. Hein.
tous les seconds couteaux, quoi. C'est
C'est
déjà Welcome
ça.
au Jobber's World. Ah ouais, c'est pour être le nom de leur
C'est
pay-per-view.
toute la low-card de la WWE, là.
Le pire, c'est que ça
West.
marcherait, un truc comme ça, toi.
Ah bah moi, s'ils viennent dans le coin, je vais les voir.
Bah oui.
Les Authors of Pain contre Wesley Black et Steve Cutler, le Forbidden Son, vous vous souvenez?
Ah oui,
Ah.
ah, ils sont restés
Ah.
ensemble.
Et ouais, Nia Jax est là, et elle
Ah
affrontera
bon?
Lana. Lana contre Nia Jax. Alors Lana va sûrement passer à travers une table ou un truc comme ça.
Ah
Et Braun Strowman quand même, contre Alistair Overeem, un ancien du Mixed Martial Art.
Un costaud. Quoi.
Voilà, un costaud. Donc voilà, grosse carte. Ça se passera donc en Angleterre, à Nottingham, Motorpoint Arena, le 9 juillet.
Ouais. Moi, voilà. ce qui m'embête, mon bon Inside, là, c'est que je suis pas sûr qu'en tant que Français, on soit bien reçu en Angleterre pour aller voir un spectacle, quoi. On va se faire gazer à peine sortir du TGV, là.
Voilà, hein, à l'époque où j'ai mis sous presse, voilà, c'était envisageable de faire une petite sortie en Angleterre.
Les relations diplomatiques étaient encore correctes à l'époque.
Voilà, maintenant, il faut travailler votre accent pour passer incognito, hein, parce que sinon... Sinon, ça va faire mal. Mais dans l'absolu, l'affiche que je vous sors, là, si ça passe en France, là, ça vous intéresserait? Letty, ça t'intéresserait d'aller voir ça?
Oui, clairement. Ce serait quand même une bonne occasion. Et puis, même si c'est Global World, c'est quand même intéressant, je pense. Il y a quand même des bons noms.
Ouais. Ils ont même gardé les storylines de la WWE, comme tu dis, Nia Jax contre Lana.
Contre Lana,
ouais. On aura peut-être enfin la fin de la storyline. C'est dingue, c'est difficile à suivre, hein, oui.
Il paraît que Lana va gagner en restant
sans bouger à l'extérieur du ring.
Elle va gagner le match comme ça.
C'est
ouh là, ça donne envie.
Ouais.
Papy, il a déjà son ticket, là, ça y est.
Il a déjà son, c'est vendu, hein.
C'est sûr, il passe là sur la place de la mairie. à la limite, je veux passer les voir, quoi. Bon, après, ouais, mettre de l'essence là-dedans, je suis pas encore sûr à 100%, quoi. Mais bon, moi, je pense que ce qui serait important, c'est d'avoir l'avis de Géliel là-dessus. Parce que Géliel, je suis sûr que si ça passait dans son coin, là, il serait chaud patate.
Bon, moi, je trouve que vous êtes bien méchant avec Lana. Ah, salut à tous, salut à tous.
Salut Géliel. Il s'est faufilé.
Ah oui, entre les petits fils d'internet. Ah ouais, mais carrément, j'irai voir ça, quoi. Il y a effectivement que des workers de la low card, etc. Mais n'empêche que, quoi, si c'était en France, chez nous, évidemment que j'irais. Ouais, bien sûr.
Pas que pour Lana. Ben oui. Non, il y a du beau monde, hein, qu'on aurait aimé voir avoir un peu plus d'exposition à la WWE, je pense, tous ces low carders.
Et encore une fois, on voit pas Drogulak, hein, qui est victime de Vince et qui du coup n'est même pas sur cette carte-là.
Ouais, le pauvre.
Il est enfermé, voilà, ils veulent pas le lâcher. Hein.
Encore un qui est tenu otage de la WWE. Bon bah voilà, hein, si vous êtes pas loin, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est le 9 juillet. Alors, faut quand même qu'on en parle. C'est important. La WXW, la fédération allemande. On a quand même plein de catcheurs français qui sont. Tristan Archer est le champion quand même de cette fédération. C'est pas difficile à trouver puisqu'il vous suffit d'aller sur le WWE Network pour voir ça.
Mais oui, c'est ça qui est bon.
Ouais. Ça, c'est excellent, ça.
Voilà, c'est facile comme tout. Alors, la production, elle est propre, hein, de ces shows-là. Hein. On n'est pas sur du show indie crasseux.
Ah non, c'est la qualité Enkel du show allemand, là.
Voilà, il y a du savoir-faire. Hein. Ça fait un moment que ça existe, hein, la WWE. Hein, ça a sorti des catcheurs comme Walter, hein, tout simplement. Gunther, hein, à l'heure actuelle. Donc, Tristan Archer est notre champion. Il affrontera Alex Tischer, qu'on connaissait sous le nom d'Alexander Wolf, dans le clan Sanity, dans un Iron Man match de 60 minutes.
C'est bon, ça. Ça, c'est des grandes stipulations, des grands catcheurs.
Ah oui.
Gros match en perspective. C'est le 3 juin. Ça se passe à Hambourg. Il y a encore des places. Vous pouvez en trouver en allant sur le shop de la VXV, hein, si vous n'êtes pas loin. Puis sinon, ce sera disponible sur le WWE Network. Tristan Archer, qui est vraiment impressionnant, hein, maintenant. Il a un physique. Il est même beaucoup plus impressionnant que le Axeman, que l'ancien WWE. Bah,
il est ressorti du studio Catch-Up encore plus balèze que quand il était entré. Hein.
Bah, c'est ça, on lui a donné quelques astuces. Hein. Ah, oui. Moi, je lui ai glissé 2-3 mots.
Programme, tu lui as donné ton programme.
Bah voilà, hein, pour avoir un beau
programme
comme moi. C'est ça. Il m'a dit, ça a l'air un peu compliqué. Je lui ai dit, faut savoir ce que tu veux. Hein.
Accroche-toi, mon gars.
C'est
et
ça.
Il s'est accroché. Et il a fait.
Et il y aura aussi Aigle Blanc contre Senza Volto. Hein.
Ah, la France contre la France.
Voilà, un classique. Et puis plein de catcheurs allemands qu'on aime. On retrouvera également la WXW en France, puisqu'ils vont passer à Nanterre au Studio Génie le 10 juillet. pour le show Battle for Paris. C'est au Fight for Paris, pardon. Je vous dis des bêtises. Fight for Paris, le 10 juillet, au Studio Genie. C'est un crossover, WXV et la PC.
Voilà, la PC. C'est les Allemands qui se battent pour Paris. C'est sympa, ça.
Ça nous rappelle des souvenirs. Hein.
Bah, que veux-tu, on est lié pour l'éternité hein, avec ces gens-là.
Voilà, exactement. Donc ça aussi, les places sont trouvables. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est une belle salle, hein, le Studio Genie. Il se passe toujours des choses, c'est un petit peu hein, le top du catch français hein, quand même. Voilà, tout ça, n'hésitez pas, c'est dispo. Si on parlait un peu WWE, je ne sais pas si vous regardez cette fédération. Bon, moi je veux votre avis sur toute cette histoire Sasha Banks Naomi là.
Mais ça t'énerve pas.
Hein oh, écoute, de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe là alors avec ces filles-là, les anciennes championnes, enfin les anciennes championnes, les championnes tag team qui no show, qui refusent de participer au main event de Monday Night Raw, qui quittent les studios, qui abandonnent les ceintures, qui sont punies, qui sont suspendues, sans paye. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont si maltraitées que ça, Sasha Banks et Naomi, vous trouvez? C'est mérité ce traitement? Elles ont le droit de revendiquer des choses comme ça? Qui veut prendre la parole? La GDL, qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça?
Bah, c'est assez particulier. On a en plus l'exemple en ce moment avec MJF côté AEW où on oscille entre le work et compagnie. J'ai cru un work pendant un petit moment. Là, ça dure. Les annonces qui sortent, c'est vraiment que voilà, il y a un clash quoi. Il y a quelque chose qui semble s'être. Alors, je suis pas le plus assidu des Dirt Sheet et compagnie, mais il semble qu'il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé avec un clash. Je sais pas, ce serait une grosse perte, vraiment, si jamais elles devaient partir toutes les deux et si elles étaient toutes les deux effectivement virées. Comme tu l'as dit, hein, ça parle de salaire plus versé, ça parle de choses comme ça. Mmh. Donc,
apparemment, là, elles ne sont pas payées hein, pendant qu'elles sont
suspendues. Oui, voilà. Alors après, la suspension pas payée, je crois que c'est à peu près normal, ça. Hein, mais ouais. Voilà.
C'est le principe d'une suspension, c'est vrai.
C'est ça. Mais si on extrapole au fait que elle pourrait éventuellement partir, je trouve que ce serait vraiment un très 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 mauvais move. Maintenant, comprendre pourquoi on en est arrivé là, ça peut être aussi intéressant. Tu l'as dit, est-ce qu'elles sont si maltraitées que ça? Il y a sans doute des éléments qu'on n'a pas, enfin sur lesquels on n'a pas, enfin forcément de vision. On a bien vu hein, qu'il y a eu des soutiens qui ont été apportés, étonnamment aussi par des catcheurs qui sont plus à la WWE, mais parce que ça s'est quand même fait assez discret sur les catcheurs qui étaient à la WWE. Il y a même eu quelques avis un peu contraires ou un peu plus frais oui. Par rapport à elle. Je sais pas trop. Si c'est un work, je trouve qu'il dure un peu longtemps. Et s'il y a autre chose, ce sera vraiment dommage que ça se termine pas bien à la fin, quoi. Voilà, mon avis.
Ouais, pareil que Sasha Banks, c'est pas très apprécié dans les vestiaires. Même pas du tout, à ce qui paraît.
En fait, elle est détestée.
Elle est détestée, voilà. En fait, tout le monde la déteste. Ils sont tous bien contents qu'elle ait fait n'importe quoi. Naomi, bon, on sait
que... Tout le monde l'adore.
Tout le monde l'adore, mais on sait qu'elle picole un peu.
Voilà.
Donc les gens la tolèrent, quand même. Mm. Mais alors,
on en a toléré d'autres qui le faisaient. Ça.
Mais un no-show, c'est quand même grave. Hein. Enfin, c'est grave dans l'absolu, c'est pas très grave. Mais d'un point de vue professionnel, c'est surtout dans le monde du catch, ça se fait pas du tout. Même dans le monde du spectacle, oui. Tu viens pas à un spectacle où t'es programmé. Normalement, t'as pas de deuxième chance. Hein. Enfin, à moins que tu sois vraiment le top du top de la star du moment. Quoi. Faut être Elvis Presley ou un truc comme ça.
Du coup, la question à se poser, c'est est-ce que Sasha Banks et Naomi sont les top du top stars du moment?
Est-ce qu'elles peuvent se permettre ça? Et puis surtout, est-ce qu'elles sont si maltraitées que ça? Je veux dire, le point de départ, apparemment, c'est la storyline autour de leur participation au main event dans un Fatal 4-Way que Naomi devait gagner en plus et se retrouver challengeuse de Ronda je crois ou de Bianca Belair je sais plus
oui les deux allaient se retrouver voilà, respectivement challenger pour les deux titres d'un côté et de l'autre et du coup ça mettait en stand-by tout le programme autour des ceintures tag team et c'est là où le bas blesse pour elle, c'est pas tant le main event en soi je pense mais ce que ça impliquait derrière.
Ouais, alors c'est sur cette histoire de ceinture tag team féminine finalement. Visiblement, ça les tient à cœur. Bon.
Bah okay. C'est ce qu'avait Sasha Banks et Bayley avaient milité hein, énormément pour la création de ces ceintures. Donc tu peux comprendre qu'effectivement elles soient, enfin que c'est voilà, c'est
mais de là
important à leurs yeux.
Mais de là aller jusqu'à un autre show quand même. elles sont pas très, oui, bon, bref, c'est pas très important, c'est ça, au final. Mais bon, si c'est, en fait, je suis pas sûr qu'en plus elles soient soutenues par le reste du roster.
C'est ça.
Donc voilà. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je pense pas que ce soit un move très intelligent de leur côté. Et qu'on est tous perdants dans cette histoire, finalement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus?
Non.
On est bon.
Non, on verra. Je pense que c'est effectivement, vu les appréciations différentes entre les deux, je serais pas étonné qu'ils aient chacun leur sanction adaptée, quoi.
Ouais. Est-ce que Naomi a ses soutiens auprès de la Bloodline? Sasha Banks, elle est un peu mainstream. Elle traîne du côté de Disney+, hein, on l'a vu jouer dans des séries télé, c'est la cousine de Snoop Dogg. Peut-être qu'ils vont trouver un terrain d'entente au final, après leur mois de suspension, c'est déjà arrivé avec Stone Cold Steve Austin, hein, ça, hein, qui avait nos shows à une époque, et bah, qui avait payé une grosse amende sans sortir, puis ils sont revenus, ils sont réconciliés finalement.
Oui, la seule chose, c'est qu'on espère que, voilà, qu'ils trouvent un terrain d'entente et que, voilà...
Voilà.
Parce que c'est vrai que, voilà, c'est peut-être pas les... Elles sont peut-être pas les méga stars qu'elles voudraient être. Sasha Banks, je pense qu'elle sera jamais satisfaite. Elle a l'air d'avoir beaucoup d'ambition et un ego surdimensionné, ce qui est très bien parce que tu as besoin d'avoir un ego de ouf pour réussir dans le catch. Faut pas se leurrer. Mais on espère simplement que, voilà, pour le spectacle, pour les fans, ils puissent, voilà, trouver un terrain d'entente et puis revenir dans une grosse storyline de filles pas contentes qui reviennent.
Ouais, ouais. Alors c'est dommage pour Tony Khan parce que ça désamorce un petit peu toute sa storyline autour de MJF. Que là on voit bien, c'est Sasha et Naomi, c'est pas un work. Et sur l'autre, bah on se rend compte quand même que tout ça est un petit peu scénarisé. La WWE, ils ont pas besoin de faire grand chose pour.
Ah, ils ont un temps d'avance.
Hein, c'est ça, hein, tu vois. Un petit coup comme ça d'un côté.
Ah, ils ont pas besoin d'écrire les dramas viennent à eux.
C'est ça. Bien dit. Des bonnes nouvelles, Jeff Jarrett et Diffon Dudley reviennent bosser à la WWE à la production. Pour ceux qui étaient fans, les vieux.
Je sais même pas que Diffon était parti, moi.
Ouais, s'il faisait partie de la charrette. Alors, Jeff Jarrett, il va s'occuper des tours live, hein, des live events. Ce que faisait Diffon Dudley, si j'avais bien compris jusqu'ici. Et Diffon, il va retourner en tant que producteur dans les coulisses de la télé. On est content pour eux. Et surtout, Bray Wyatt nous tease un petit retour via Twitter. Apparemment, c'est pour bientôt son retour. Est-ce que vous voulez le revoir de retour à la WWE?
Ah, ça sera la WWE?
On ne sait pas, pour l'instant.
Et quoi, qu'est-ce qu'il a teasé encore?
Il a envoyé un petit tweet, il a dit « c'est pour bientôt mon retour ». D'abord, il a fait une série de tweets où il disait « vous êtes tous des connards, ça va bien de me critiquer 5 minutes, etc. Je vais revenir, je vais vous montrer qui je suis ».
Oui.
Et là, dernier tweet en disant « Ah, c'est pour bientôt ».
Il va vendre sa marque de soda ou je sais pas quoi. Et puis...
Ouais.
Bon, pas épais, au final, je me pose une question, moi. On se souvient de l'aspect créatif, etc., pas si lointain de Bray Wyatt, mais est-ce qu'il manque vraiment, en fait?
Oui, c'est ça.
Moi, pour moi, non. Alors, ce serait bien qu'il revienne pour rattraper l'histoire de The Fiend, parce que ça a quand même été un échec un petit peu cuisant. Des derniers gros échecs quand même de la WWE, hein, alors c'était si bien parti cette histoire pour finalement arriver aux catastrophes qu'on connaît, hein, avec Alexa Bliss, etc. Mais sinon je trouve pas qu'il manque plus que ça, hein.
Je dirais que s'il doit revenir, c'est pas bientôt, justement là où il se trompe avec son tweet, c'est qu'il faut pas qu'il revienne bientôt, parce que là on est un peu on a fait un petit peu le deuil, quoi, on est passé un peu à autre chose, on a eu le retour de Cody Rhodes, voilà, on commence déjà, voilà, à passer à autre chose. C'est un peu obscur au niveau de ce qui se passe avec les ceintures et le titre mondial avec Roman Reigns. Je pense que ce serait pas le meilleur timing, toi, si jamais il doit revenir. Ce serait une fois que tout se décante, une fois que tout est un peu décanté et que les choses commencent à se restabiliser, et là, boum, tu fais revenir de nulle part The Fiend dans un gros programme.
Ouais, de toute façon, il faut pas que ce soit annoncé. Il faut qu'il vienne comme ça, peur surprise. Hein.
Bah oui.
Et puis The Fiend, comme tu dis, qui revient, qui casse tout, qui casse la baraque, qui devienne un peu le monstre qu'on aurait voulu qu'il soit, hein, plutôt que le gars qui se fait brûler et qui tombe amoureux d'Alexa Bliss. Non, franchement, quand j'y repense, j'ai pas du tout envie de
tomber. Sur ce dernier point, on peut pas lui en vouloir quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est assez facile de tomber amoureux d'Alexa Bliss. C'est vrai. Ah, les Firefly Funhouse, c'était marrant.
Mais oui.
Donc voilà, attention au retour de Bray Wyatt, les enfants. Bon, gros week-end de catch ce week-end, puisque vous ne le savez sûrement pas, mais il y a aussi un Premium Live Event de NXT.
C'est pas vrai.
Eh oui, samedi soir. On n'est pas prêt, hein, on n'était pas ready, là. On est... Qu'est-ce qui se passe? On va vous donner la carte rapidos. Il y a un six tag team match entre les Mexicains Santos Escobar, Cruz del Toro et Joaquin Wild. Cruz del Toro, ça doit être le nouveau nom de comment s'appelait-il? Bah celui qui faisait partie de
celui qui n'était pas Joaquin Wild.
Voilà, le Leogaldo del Fantasma. Ils affrontent les Italiens Tony D'Angelo, Channing Stax Lorenzo et Troy Two Dimes Donovan. Voilà.
Et donc la mafia italienne. Okay.
La mafia italienne
contre,
hein,
la, mafia Pano, okay.
Contre la mafia mexicaine. Contre la mafia mexicaine. Ouais, n'hésitez pas à faire monter les Gallo del Fantasma dans le main roster, hein. Parce que si c'est pour aller en bas de carte affronter des Italiens que personne connaît, c'est pas... En plus, je crois qu'il y en a un dans le lot qui est pas un catcheur, hein, mais à voir. Les championnes par équipe Toxic Attraction, Gigi Dolin et JC Jern affrontent Kaden Carter et Katana Chance. Alors j'en connais une des deux.
Bah, Katana Chance, c'est l'ancienne, comment elle s'appelle, l'ancienne copine de Ricochet.
Ah, elle s'appelle Katana Chance maintenant. Et, bah, oui, en plus, s'ils changent les noms de ceux qu'on connaît pas à la base.
Katanzo,
Katy Catanzaro.
Ah, qui avait fait de la télé-réalité. Ouais, voilà, c'est ça.
Ninja Warrior. Ok, bon, bah, ça fait un moment qu'elles sont là, hein, Kaden Carter.
Oui, c'est bien qu'elles aient enfin la chance. Chance.
Voilà. Oui, hein, bon, allez-y, décrochez la ceinture, les filles. Montrez-nous qu'on avait tort.
Voilà.
les champions par équipe, Pretty Deadly. Hein, je pense que vous les connaissez pas, ceux-là. Ils affrontent les Creed Brothers. Donc, les anciens compagnons de lutte de... les anciens compagnons de lutte de Roderick Strong. Voilà, bon, bah, ça, on est au degré zéro de la hype. Tiens, Cameron Grimes, il est toujours là. Apparemment, il est champion nord-américain et il affronte Carmelo Hayes.
Ouais.
Donc, ça, on a déjà vu.
Hein. Qu'il affronte Carmelo Hayes, moi, Cameron Grimes, mais peut-être que je me trompe alors.
De quoi?
J'ai toujours l'impression que c'est le même match en fait entre les deux.
Ouais, c'est ce que je me disais aussi.
Oui,
c'est
toujours le même. Ça fait six mois.
D'accord, ok, bon, bah.
Ok.
Ça me rassure.
Voilà. Mandy Rose affronte Wendy Chou.
Ah, ça, c'est nouveau.
Ah, ça, c'est de l'inédit.
Ah, ouais. Géliel, il a fait un petit râle de contentement. Ouais. Il est content.
Ouais. Ah, Mandy Rose.
Ah, d'accord. Je crois que c'est Wendy Chou.
Wendy Chou. Alors, Wendy Chou, c'est une fille qui se trimballe en pilou-pilou et qui fait semblant de dormir pendant les matchs. Moi, je sais que c'est la dernière fois que j'ai regardé NXT. Je me suis dit, plus jamais, je regarderai ça.
Effectivement, c'était une fille qui était avec Shali et Boa là.
Ouais, ouais. Alors, c'était elle qui était à l'époque
l'espèce de démon là.
L'espèce de... Bah, elle sait faire plusieurs choses alors. Hein. Du...
Oui, décidément.
Hein, incroyable ça. Ils ont bien fait de l'embaucher. Et le main event, votre main event, Bron Breakker, le champion, hein, le fils Steiner, contre Joe Gacy, le Kevin Owens du pauvre. Si Breakker est disqualifié, il perd le titre.
Waouh!
Wow. Ouh, c'est à 2h du matin sur le WWE Network. Est-ce que ça donne envie cette carte? J'ai bien peur que non.
Pas encore.
Ouais.
Il faut qu'ils grandissent, ces jeunes.
On retrouve trop de noms, trop d'anciens noms. Même s'ils les ont changés, on sait qu'ils sont là. Des choses qu'on sait que ça donnera rien. Hein. Je veux dire, Cameron Grimes.
Là, j'ai un doute, hein, sur Cameron Grimes.
Il est gentil, hein, mais il sera producteur, quoi, ou entraîneur, au final, quoi. Et puis, Bron Breakker, pas convaincu quand même, quoi.
Oui, Bron Breakker, dans le.
Oula.
Tonton, enfin, papy, t'es passé dans un tunnel.
Ouais, papy, il a perdu dans le tunnel, là, le papy. Il a dit hier quelque chose de mal ou de bien sur Bron Breakker?
Qu'est-ce qui se passe? On m'entendait plus.
Voilà, on t'entend maintenant.
Ah, je me suis éloigné du PC, j'ai voulu faire le malin.
Non, mais le gars, j'ai voulu m'éloigner du micro pour voir jusqu'où je pouvais aller.
En fait, au bout d'un moment, vous m'entendez plus, c'est con. Je disais, non, ouais, je pense que Bron Breakker, c'est un projet WWE, donc il aura au moins son run dans le main roster. Je pense aussi que la team de Mandy Rose pourra aussi avoir sa chance à un moment, parce qu'en plus ça manque de filles, surtout avec toutes celles qui sont ou en train de se marier ou en train de se faire licencier. Donc, les autres, par contre, effectivement, un mec comme Cameron Grimes, je suis pas sûr, il y a pas la gueule de l'emploi en plus. Et Carmelo Hayes, pareil, j'arrive même pas à savoir quel est son style ni rien. Donc, ces gars-là, par contre, j'ai beaucoup plus de doutes, quoi.
Ouais, il y a du manque de personnalité, hein, dans tout ça. Bon, on jettera un coup d'œil à ceux.
Oui, je regarderai,
Ouais, faut leur donner leur chance, quand même. Mais, de là à ce qu'on suive ça toutes les semaines, il y a encore de la marge, hein. On est loin des belles heures. Allez, un petit retour dans le temps avant qu'on attaque les pronos, hein, parce que vous étiez tous venus pour les pronos de toute façon.
On monte dans la DeLorean.
On va aller se retrouver à Illinois en 2021. On se retrouve au Thunderdome, hein, souvenez-vous. Oui, des écrans télé partout. Et en pré-show, Natalia, justement, qui bat Mandy Rose. On vient d'en parler par soumission. Natalia était accompagnée de Tamina et Mandy Rose de Dana Brooke. Je crois que c'est l'époque où elles étaient habillées en rose, Mandy Rose et Dana Brooke. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui.
C'était après WrestleMania.
Mm-hmm.
Juste avant qu'elle reparte à NXT, Mandy. Hein. Et que Dana devienne championne 24/7. Bianca Belair bat Bayley dans un Hell in a Cell match de 19:45. Superbe match, hein, avec une superbe Bayley. Évidemment, elle nous manque à Bayley.
Oui.
Seth Rollins battait Cesaro dans un match de 16 minutes. C'était
le début de la fin.
Voilà, le début de la fin du gros push de fin de carrière de Cesaro, mais gros push de Cesaro à l'époque. Alexa Bliss battait Shayna Baszler. Alors ça devait être horrible. Oui, Sami Zayn, ça l'était, hein, il me semble. Ouais. Alors, Sami Zayn battait Kevin Owens. Ils étaient en rivalité. Je crois que Kevin Owens était le babyface à l'époque.
C'est la rematch de Mania, ça, non?
Ouais. Quelque chose.
Ça, c'est genre, ouais, il fallait mettre un match et ils avaient ressorti cette rivalité un peu de nulle part.
Un peu de nulle part, ouais. Charlotte Flair battait Rhea Ripley par disqualification. Rhea Ripley était championne à l'époque. Et Charlotte Flair se faisait attraper par un petit peu ses techniques habituelles, puisque c'est Rhea Ripley qui avait forcé la disqualification pour conserver la ceinture. Et le main event, c'était Bobby Lashley, le champion à l'époque, souvenez-vous, et il battait Drew McIntyre sur un roll-up après un gros match dans la cage. Mais malheureusement, ça a été plombé par un finish anticlimatique, comme on dit. J'avais écouté pour préparer l'émission la review qu'on avait faite, hein, à l'époque.
Qu'est-ce que vous aviez dit comme connerie?
On était très circonspect par rapport au finish, hein, parce qu'il y avait que des enchaînements de finish, de roll-up, de disqualification, de trucs comme ça. Et puis c'était, moi j'étais au bout de ma vie, hein, c'était la fin du Thunderdome, là on en pouvait plus de ce Thunderdome.
Oui, c'est le dernier avant la fin, je crois, effectivement.
Ouais, je crois que c'est le dernier. Ouais.
Money in the Bank, le premier sur Thunderdome, donc c'est possible, ouais.
J'étais en totale dépression, hein, pendant l'enregistrement de l'émission.
Écoutez l'émission.
Si vous voulez voir les symptômes d'un dépressif. Voilà.
J'étais à deux doigts de pleurer.
Éloignez toute corde ou tout objet tranchant, oui. Mais écoutez l'émission.
Ne l'écoutez pas seul. Ne l'écoutez pas seul.
Voilà, ce qu'on retiendra, c'était quand même une grosse perf de Bayley et Bianca Belair, et quand même une grosse perf de Bobby Lashley et Drew McIntyre qui étaient plombés par les finishes. Hein. Et on s'interrogeait sur Cesaro aussi, hein, savoir qu'est-ce qu'il allait devenir. On avait vu juste ça, parce qu'on se doutait qu'il n'y arriverait pas. Les salauds. Bon, on passe au prono, les enfants.
Oui. Ouais. Les choses sérieuses commencent.
Allez, on descend.
J'ai un niveau à défendre, moi. Excusez-moi.
Voilà.
On bosse pas dans la même catégorie.
On vous rappelle l'énorme performance de Géliel, qui a pas pronostiqué un bon résultat quand même de tout le pay-per-view la dernière fois. On va voir si tu peux faire mieux. On commence avec Kevin Owens qui affronte Ezekiel. Alors, on vous rappelle l'histoire, hein, c'est-à-dire que Ezekiel a débarqué après WrestleMania. Il se présente comme le frère d'Ilias. Mais Kevin Owens,
qu'il est vraiment.
Ben oui. Mais ça, c'est le doute, c'est Kevin Owens qui n'y croit pas. Lui, il est persuadé que c'est Ilias, en fait, qui s'est juste rasé la barbe, qui a changé de look. Et ça le rend fou, Kevin Owens. Il a essayé de s'allier à Sami Zayn, essayer de faire revenir Sami Zayn à Monday Night Raw, mais ça n'a pas fonctionné, hein. On se souvient, donc, on vient d'en parler, ils étaient fâchés l'année dernière, mais il a tenté la réconciliation, ça n'a pas fonctionné. Et là, Kevin Owens, il en a marre, il a lancé le défi à Ezekiel, on s'affronte à Hell in a Cell. C'est un match simple, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc voilà, à qui on va donner la victoire dans cette histoire, mon bon Irem?
Moi, je la donnerais à Kevin Owens parce qu'il y a quand même, un sacré écart entre les deux. Et je trouve qu'Ezekiel s'en est beaucoup tiré jusqu'à aujourd'hui face à Kevin Owens, qui l'a rendu complètement marteau. Et que ça va se payer. Ce soir-là, face à Kevin Owens, je pense à le Canadien. Voilà, psychologiquement, c'est dur pour lui. Il va peut-être péter un câble. Alors peut-être qu'on ira vers une DQ, c'est pas impossible. Mais je vais quand même mettre une bille là sur le Canadien.
Tu vois, Ezekiel à l'hôpital presque.
Bah oui, et puis peut-être revenir en Elias du coup.
Non, s'il vient et qu'il revient en Elias. Oh, ce merveilleux scénario.
Bah oui, ah ouais, bah oui. Donc, ouais, c'est ça.
Hein, on parlait dessus. Letty, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, justement, pour à peu près les mêmes raisons, mais je dirais plutôt Ezekiel du coup, pour que Kevin pète vraiment complètement un câble. Et que ça se règle peut-être au prochain pay-per-view, voire à SummerSlam. Je ne sais pas comment ils peuvent voir ça, mais je pense qu'ils vont faire péter les plombs à Kevin et que c'est Ezekiel qui va gagner.
Ezekiel victorieux qui rend fou Kevin Owens, la première étape d'une rivalité en plusieurs matchs. Ouais, c'est envisageable aussi. Papy, qu'est-ce que tu en penses?
Je reste sur la team Kevin Owens a pété un câble. Alors, soit pendant le match, ça fera une DQ, soit suite au match, Pamp, il aura pris un roll-up ou un truc comme ça, alors qu'il est dominé, qui le rendrait totalement fou. Et en plus, Ezekiel, c'est son premier match dans le main roster, enfin, en pay-per-view en tout cas. Donc, je pense que c'est toujours bien de débuter par une victoire. Donc, du coup, je vais voter pour Kevin Owens.
Ouais, c'est Ezekiel, le rookie. Faut bien que ça démarque quelque part. Géliel, qu'est-ce que t'en penses?
Même analyse. Avec une victoire d'Ezekiel, parce que je pense pas que ça se termine en un match. Et je vois beaucoup plus Kevin Owens, aller chercher un rematch qu'Ezekiel aller demander un rematch à Kevin Owens, quoi. Donc je pense que effectivement avec un soit de l'overbooking avec Elias qui débarquerait et comme ça on verrait qu'ils sont deux les deux mêmes au même endroit au même moment, comme ça on pourrait quand même résoudre le truc et puis du coup ça emmènerait facilement vers un match 2 effectivement SummerSlam ou autre, à voir
s'ils arrivent à nous faire un délire où il y a Elias qui débarque.
Mais oui,
là ce serait chapeau. Ouais, moi je vais donner ma victoire à Ezekiel. Il y a une logique implacable, hein, effectivement. On voit plus Kevin Owens demander un rematch que Ezekiel. Ouais, non, il faut que le rookie, quand on est nouveau comme ça dans le roster, il faut marquer le coup avec une première victoire quand même. Donc victoire d'Ezekiel. Ensuite, on a un match qu'on attend tous. Bobby Lashley dans un match handicap, 2 contre 1. Il affronte Omos et MVP. Ça va être dur pour Bobby Lashley. Moi, je vous cache pas que je le vois gagner quand même, atomiser les deux. Même si, à Monday Night Raw, il était plutôt victorieux contre Omos. Hein, il l'a fait passer à travers une table. Généralement, si on utilise le booking inversé, on verrait plutôt une victoire d'Omos. Mais je vais rester sur une victoire de Bobby Lashley, moi. Papy, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense? Je pense que malheureusement pour nous, cette histoire est amenée à durer.
Aïe, aïe, aïe.
Mettre le terre, t'es pas lourd, t'es toi malheureux.
Ah non.
Et pour que cette histoire dure, en fait, techniquement, il faudrait que Bobby Lashley soit le face qui se bat, qui survit à tout et qui enchaîne les défaites parce que les autres trichent comme des cochons, parce que ce sera un handicap match, mais il y aura peut-être en plus Eric Alexander qui a traîné autour parce qu'on le voit comme toutes les semaines. Donc ça sent la triche comme des cochons et en plus pour demander un rematch ce serait quand même Mieux si c'était la dernière chance de Lashley avec je sais pas quoi qui serait derrière. Donc, ah techniquement, là tout là. Pointe vers la team qui sera en supérieur en nombre. Donc, du coup, bien sûr, je cocherai Bobby Lashley.
Eh oui, Bobby Lashley vainqueur, évidemment. Oh mon dieu, ça tient la route ce que tu dis en plus.
Oui, mais oui, mais oui. Eh, mais il tient la route, mais il vote pour l'autre. Alors.
Bah oui, non, mais ça, bon, après, papy, il vise pas la victoire. Hein. Il joue pour l'honneur.
J'ai vu le classement à l'envers avec Géliel.
Voilà.
Exactement.
Il n'a pas supporté de se faire passer devant par Géliel à l'arrière du peloton. Ça ne va pas se passer comme ça. Ouais, bah, Yerem, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ah, c'est dur. Oui, c'est une petit peu intelligente hein, pour faire durer, effectivement, encore et encore ce truc. On pourrait dire ouais, Bobby Lashley va faire le tomber sur MVP, mais effectivement, ouais, je restais là-dessus, c'était ma première idée, victoire de Bobby Lashley avec un tombé sur MVP, mais tout se tient, ils sont très forts, même dans les rivalités de merde, ils sont forts.
Ouais, ah, c'est chiant ça. Géliel ?
Bah, je rejoins un peu Papy sur le fait que ça sent la triche, ça sent tout le merdier. Donc ouais, ça va être. Alors j'ai pas envie. Hein. Mon Dieu, que j'ai pas envie que ça dure ce truc-là, et surtout de voir Omos dans le ring, ça me fait toujours pas plaisir. Mais je sens qu'ils vont quand même gagner. Je sens qu'ils vont quand même gagner.
Ok.
Donc Lashley, parce que je suis un compétiteur né.
Exactement. Ok, je n'arrive plus du tout à comprendre rien du tout. Letty, qu'est-ce que tu mets en victorieux?
Après, je suis un peu d'accord avec l'histoire de la triche, ça, de toute façon, malheureusement pour nous, mais je pense que oui, ça va terminer comme ça. Après, enfin, personnellement, je vois pas l'intérêt en fait de cette rivalité. Enfin, que ce soit pour un weekly d'ailleurs, déjà même pas, mais alors pour un pay-per-view, je comprends pas le concept en fait. Voilà. Omas, voilà. Enfin, c'est un Great Khali 2.0 en fait. Voilà, il est là, il est grand, c'est bien, mais il sert pas.
Ouais, on voit pas de progression hein, chez Omas.
Voilà.
Hein, Great Khali 0.5.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais.
Aussi, oui. Mais bon, voilà. J'espère que Lashley va gagner. Mais bon, à mon avis, voilà, ce sera Homo, c'est MVP. Je vois bien Cédric Alexander arriver et faire un peu n'importe quoi dans le dos de l'arbitre, puisqu'il a qu'il avait rien à faire là. Et ouais, non, je pense Homo, c'est MVP.
Okay. Après, quand tu dis que le meilleur gagne, etc., etc., si c'était le cas, il y aura longtemps que Liv Morgan aurait une ceinture autour de la taille. N'en déplaise à certains esprits ici présents.
Non, mais enfin, c'est quoi voilà. Le rapport là avec le meilleur Liv Morgan
hein. Non, c'est tout. Je n'ajouterai rien d'autre.
Un cri du cœur.
Ah oui,
cri du cœur.
Franchement, c'était.
Ça fait 6 mois qu'il essaie de la placer celle-là.
Totalement inapproprié. Hein.
Bon.
C'était écrit ça, c'est coché, c'est fait.
Voilà.
C'est gênant. Bon. Hein.
Ça permet de faire une transition parce qu'on est.
Mais toi, t'as pas dit ici, t'as dit.
J'ai dit au tout début. J'ai donné Bobby Lashley. Je crois en Bobby Lashley et je veux voir la fin de cette rivalité.
Ah, ok.
Donc je tente mon coup. Hein. Allez, Lashley, il m'a déjà coûté un point au dernier pay-per-view.
Un deuxième. Et
voilà, hein, comme ça. Et on n'apprend pas de ses erreurs. Six personnes mixte tag team match, on appelle ça. Le Judgment Day, Edge, Damian Priest et Rhea Ripley affronte ceux qu'on n'appelle pas le Bullet Club, mais qu'on pourrait. AJ Styles, Finn Balor, et Liv Morgan, justement, la chérie de Géliel.
En parlant de Bullet.
Voilà, en parlant de Bullet.
Si tu nous écoutes.
Qui va gagner cette bataille de clans où on mélange les femmes et les hommes là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tiens, bah, honneur aux dames. Letty, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, je pense que c'est le Judgment Day qui va gagner, qui doit gagner, parce que si... Voilà, s'imposer vraiment comme la faction heel, parce qu'il a l'air d'être un peu dans les projets, ils peuvent pas perdre. Maintenant, c'est trop tôt, en fait, pour qu'ils perdent. Donc, je pense que, je sais pas encore comment, forcément, ils vont nous faire du edge, voilà, ils vont tricher. Je sais pas comment ils vont faire, peut-être un quatrième qui va arriver, Balor, peut-être, ou un des nombreux, une des nombreuses personnes dont Edge nous tease.
Nakamura qu'il avait mis en dernier là. Non, mais là.
Oui, je suis n'importe quoi. Là, il tisse trop là.
Il fume, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il a pas. Il arrive à court de bonnes idées là. Mais non, je pense que c'est le Judgment Day qui va gagner.
Ouais, une défaite, ça ferait un peu tâche.
C'est trop tôt.
S'ils veulent langer le Judgment Day. Ouais. Même si des fois ils aiment bien faire galérer les clans hein, quand ils les démarrent. Alors des fois il y en a qui finissent jamais par percer des clans. Hein. On se souvient de Rétribution ou même Sanity, hein, on en parlait avant. Mais des fois ça prend du temps. Papy, qui c'est que tu vois là, à qui tu donnes ton vote?
Bah, c'est un peu la même logique finalement qu'Ezekiel. C'est la première apparition du jugement D en tant qu'équipe, je crois, dans un pay-per-view. Donc tout pointe vers eux. Si j'ajoute en plus Finn Balor qui a comme toujours une bonne tête de traître à mes yeux, ça fait quand même pas beaucoup d'arguments en faveur d'AJ Styles et Finn Balor. Et puis du coup Liv Morgan qui n'est pas non plus un argument en faveur de leur équipe. C'est pour ça que je vais voter pour eux.
Ok. voyons.
Moi, je l'écoute même plus. Hein.
Ouais, non. On sait comment ça termine à chaque fois. Qui c'est qui va parler? Géliel.
Au bémol du dernier argument là, qui tient pas la route. Moi, je pense effectivement également que ce serait pas le bon moment de faire perdre Judgment Day. C'est leur premier match tous ensemble là, avec l'arrivée de Rhea Ripley en pay-per-view. Contre une faction qui a pas encore voilà d'existence à proprement parler, donc il y a aucune raison sur le papier qu'ils gagnent pas le Judgment Day. Puis en plus s'il y a quelque chose qui doit en plus arriver derrière, alors après ça peut justifier aussi le scénario d'avoir un quatrième par la défaite à ce pay-per-view là, donc de renforcer, mais j'y crois pas trop. Donc pour moi je pense que c'est plutôt Judgment Day qui va gagner.
Judgment Day, bon, on vous rappelle que c'est Edge hein, qui a former son clan avec Damien Priest et Rhea Ripley. Il aimerait bien qu'AJ Styles le rejoigne, mais bon, pour l'instant, AJ Styles, il n'est pas d'accord, et puis il a réussi à avoir des alliés dans la personne de Finn Balor et Liv Morgan. Irem, je crois que tu n'as pas donné ton...
Non, mais je vais aller avec le Judgment Day également, effectivement. Là,
Judgment Day. Ouais, je donne mon vote aussi au Judgment Day.
Oui, quoi?
Historique.
Ouais.
Il y a un titre secondaire qui est défendu
non,
dans ce Premium Live Event, le championnat US. Vous croyez qu'il avait disparu? Vous savez, cette ceinture qui avait été abandonnée par Dolph Ziggler il y a longtemps.
Ah oui.
Hein, c'est Dolph Ziggler le vrai champion.
L'angle.
Et ben c'est Théorie, hein, parce qu'on l'appelle juste Théorie maintenant, le champion, qui affronte Mustafa Ali, qu'on appelle maintenant Mustafa Ali, hein, on l'appelle pas juste Ali. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mustafa Ali est venu défier, hein, Théorie, tout simplement. Il lui a dit « Tu mérites pas d'être champion, c'est moi qui mérite d'être champion. » Et ils sont affrontés cette semaine à Monday Night Raw. Théorie a gagné en trichant, il a joué de la psychologie, parce que Mustafa Ali a réussi à gagner son match par disqualification après s'être fait attaquer justement par Théorie, son match de qualification pour décrocher un title shot. Et Théorie a dit, je te donne le title shot, mais tout de suite ce soir, dans la foulée, il a battu Mustafa Ali. Bravo, a dit Vince McMahon, très bien joué psychologiquement, mais j'ai quand même envie de voir Théorie affronter Mustafa Ali, donc on se retrouve à Hell in a Cell pour un vrai match équitable. Quand on dit à Hell in a Cell, ce sera peut-être le pré-show, hein, mais on y croit, on a envie de voir ce match qui peut être le show stealer de la soirée. Est-ce que Théorie va conserver? Est-ce que Ali va enfin perforer le plafond de verre? Qu'est-ce que vous en pensez? Géliel, comment tu vois le truc, toi?
Je crois que c'est le match pour lequel je suis le moins hypé, en fait. J'accroche toujours pas au personnage de Théorie. En plus, Ali, entre les micro-push, et puis les oublis, et puis les re-micro-push, et puis à nouveau, il disparaît. J'ai vraiment du mal avec,
on y croit
avec
plus.
Les deux. Ouais, c'est ça. Déjà, j'y crois plus. Et du coup, plus le fait que le personnage, je suis pas fan, quoi. Ouais, voilà. Alors, je pense que Théorie va gagner parce que Ali n'a absolument aucune raison de gagner. Mais il m'intéresse pas beaucoup ça.
All right. Irem, comment tu vois ça? Tu es hypé, toi?
Ouais, je suis assez hypé parce que c'est dans le chaudron bouillant de Chicago, là. Donc, ça va.
Ouais, il faut Mustafa Ali joue à domicile.
Ouais. Ah ouais, donc il va y avoir une grosse ambiance avec deux catcheurs qui. Si tu mets certains programmes un peu douteux, notamment pour Ali, qui sont une fois entre les cordes, sont censés nous proposer quand même un beau spectacle. Donc moi, c'est un match que je suis assez curieux et assez j'attends de le voir ce match. Je vais pronostiquer Theory. Et pour la victoire, pour une belle grosse défaite du héros local.
Voilà, un classique WWE.
Ouais. Mais je serais pas, ça pourrait tout à fait déconner et faire gagner Ali, et puis ça énerve Theory, et puis ça énerve Vince McMahon qui l'engueule.
Il monte sur le ring, tu veux dire?
Peut-être qu'il a retrouvé goût à la bagarre.
Que de la gueule, ils font sortir Vince McMahon des vestiaires et tout.
Allez, qu'ils osent. Allez, qu'ils osent.
Allez, mais bon, moi je vais mettre aussi ma pièce sur Theory, hein, qui est quand même l'avenir. Et puis, il faut jamais parier sur Mustafa Ali de toute façon. Letty, t'es emballé toi par ce retour du titre US dans la carte d'un premium live event?
Ce qui est bien, c'est qu'au moins il y a un titre. C'est déjà pas si mal parce que voilà, les ceintures se font très très rares. Après, bon, le match en lui-même, bon, voilà, Theory, j'accroche pas trop. Bon, Mustafa Ali, j'aimais bien une période quand il était avec Ricochet, mais bon, depuis, ça s'étiole un petit peu, je trouve. Après, oui, on va dire Theory, parce que il n'y a aucun intérêt à faire gagner Ali, même si c'est chez lui. Au contraire, je pense que Theory va peut-être jouer là-dessus et voilà, trouver un moyen pour l'humilier au maximum, voilà, devant sa famille, tout ça. Je pense Theory. Mais bon.
On voit l'humiliation venir pour Ali.
Il n'y a pas le syndrome du régional de l'étape sur les pay-per-view là, qui perd systématiquement, en plus?
Voilà,
c'est ça. Ouais, oui, 95% du temps.
Papy, toi, puisque tu donnes ta pièce à ta Theory, à Ali?
En tout cas, je trouve que c'est une rivalité moi, qui m'intéresse pas, parce que là, le potentiel pour être vraiment sympa entre le babyface, surtout à domicile, l'homme du peuple et tout, là, face au gars à qui on a tout donné. Les deux scénarios peuvent être beaux avec Ali qui gagne devant son truc, ou alors Theory qui se fait encore plus huer, effectivement, prendre des selfies face à une foule qui lui crache dessus. Les deux vont bien. J'aurais envie de dire quand même que le choix du cœur pencherait plutôt pour Ali, en mode le policier Chicago là qui se bat contre les injustices et qui du coup arrive enfin devant son crew. À régler le compte au grand méchant Theory. Donc du coup, je vote Theory.
Theory conserve son titre. Voilà, bah, on a fait le tour pour ce match-là. Le championnat féminin, c'est une triple frite. Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch. Bon, l'histoire, c'est que Bianca Belair est championne. Sasha Banks et Naomi ont refusé de participer à la storyline, donc on a booké à la va-vite un truc où Asuka a réussi à se qualifier pour avoir le title shot, et où Becky Lynch la semaine suivante a gagné un match contre Asuka pour s'intégrer au triple threat, s'incruster dedans. Et donc maintenant le suspense est à son comble. Est-ce que Bianca va conserver, est-ce que Asuka va revenir au top de la fédération? Ou est-ce que c'est Becky Lynch qui va reprendre sa place de top heel de Monday Night Raw? Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch, notre cœur balance. Bah tiens, puisqu'on parle des femmes, Letty, tu dois être une spécialiste de tout ça.
Voilà, c'est quelle subtilité. Pour un tonton, d'expérience. Aussi subtil que tonton.
Bah, après, je pense que tout est possible. C'est ce qu'il y a bien dans cette rivalité, c'est que bah, les trois, elles sont au top en ce moment. Et tout est possible. Après, moi, je penche plutôt pour Becky Lynch. Parce que ce serait dans une logique, voilà, avec un rematch à Money in the Bank. Mais je pense que tout est possible et que ça peut vraiment devenir le meilleur match de la soirée.
Ah, il y a un énorme potentiel sur ce match. Hein. Les trois,
très gros potentiel.
Les trois sont au top. Puis généralement, les filles, comme ça, quand elles ont une possibilité de faire ce genre de match, il y a du spectacle, généralement. IRM, tu vois qui, toi?
Je sais plus avec qui j'avais fait l'analyse où on avait envisagé l'idée que peut-être Asuka allait pouvoir se faufiler et choper ce titre là, au détriment des deux autres, justement grâce à cette stipulation. Mais je vais quand même la jouer un peu plus frileux et rester sur Bianca Belair. Surtout à l'approche du Money in the Bank, là, ça pourrait être sympa. Donc je vais rester sur Bianca Belair là, pour ce match.
Bianca Belair en force qui conserve. Papy?
La sécurité, effectivement, c'est qu'à Triple Free, tu fais le, le sortant vainqueur, comme ça tu prends pas de risque, donc Bianca de grandes chances de s'imposer. J'ai aussi une théorie en cours, mais alors, qui est très très lointaine, qui serait de dire que suite à la petite bisbille entre Montesford et Lemise lundi, plus le retour de Maryse la semaine prochaine, est-ce que du coup ils en profiteront pas pour nous foutre à Marie un intergender match, et du coup il faudrait libérer Bianca sa ceinture, et dans ces cas-là, ça serait mieux que ce soit Becky qui la récupère par une entourloupe, et ça lancerait ensuite la rivalité Becky versus Asuka. Donc du coup, je vais voter Asuka.
Asuka, voilà. Pourquoi pas? Faut bien un changement de titre dans la soirée. Géliel?
Je vais voter Asuka aussi pour en contre. Contre-vote un peu, mais parce que j'ai vote de cœur, quoi. J'ai vraiment très envie de la voir revenir au top après tout ces mois.
Ça rapporte pas de points, hein, tu sais, hein, quand on fait jouer le cœur.
Je sais. Bien placé pour le savoir.
Je préfère te le rappeler quand même.
Oui, non, mais tu fais bien. Par contre, je vois aussi le potentiel show stealer, quoi. Il y a quand même moyen d'avoir quelque chose de vraiment, vraiment super sympa s'il laisse le temps.
Je pense qu'ils leur laisseront le temps.
Ouais, et je pense que ça peut être, on en reparlera peut-être, hein, mais dans l'analyse, mais voilà. Par contre, je spoil un show stealer de ces trois filles-là, et en espérant qu'à la fin, il y ait une bonne surprise avec la ceinture autour d'Asuka.
Asuka. Moi, je vais voter pour Bianca Belair qui concerne, après un match que j'espère spectaculaire, hein, quand même. J'attends beaucoup de ces trois jeunes femmes. On arrive au main event qui sera un Hell in a Cell. Alors ça veut dire qu'il n'y a que un Hell in a Cell pour l'instant sur la carte. Il se peut qu'il y ait d'autres matchs qui soient rajoutés après SmackDown, hein. On n'a pas encore vu SmackDown.
Après ça, il y a des matchs d'Euro en plus.
Ouais, c'est une carte 100% Raw. Alors on parle peut-être d'un Riddle et Nakamura contre les Usos. Peut-être qu'ils feront peut-être un petit tournoi express pour le titre vacant intercontinental, je ne sais pas. Mais c'est pas impossible qu'on ait quelques matchs qui soient rajoutés à la carte, ou peut-être un deuxième Hell in a Cell, parce que il y en a qu'un là du coup. Et c'est pas n'importe quoi ce match. Il est pas là, hein, Roman Reigns, hein. Donc on a d'autres main eventers. C'est qui le main eventer quand il est pas là? C'est Cody Rhodes. Cody Rhodes qui va régler son compte définitivement à Seth Rollins, à moins que ce soit Seth Rollins qui règle son compte, qui est sa revanche face à Cody Rhodes. On se souvient qu'ils sont affrontés à WrestleMania pour le grand retour de Cody, qui a réussi à battre Seth Rollins. Il y a eu un match revanche après à WrestleMania Backlash, encore une fois gagné par Cody Rhodes, mais un petit peu à l'entourloupe, hein, avec un petit roll-up tirage de slip. Seth Rollins, il en a eu marre, il a passé à tabac Cody Rhodes, vraiment très violemment, il a failli l'envoyer à l'hosto, mettre fin à sa carrière, Cody Rhodes. Il se démonte pas, il revient et il veut la finale, la belle, la troisième victoire d'affilée contre Seth Rollins dans une cage. Est-ce qu'on voit Cody Rhodes définitivement enfoncer le clou du cercueil de Seth Rollins? Qu'est-ce que t'en penses, Géliel?
C'est dommage qu'il y ait finalement déjà 2-0 en fait, je trouve, alors que tout était bien pour un beau face-off dans la cage, etc., après une victoire partout. Ils ont décidé d'enfiler 2 à Cody, pas de problème, mais du coup, voilà, 3 ça ferait énormément, parce que quand même, alors il vient de revenir, pas de souci, mais quand même Seth Rollins, ça reste Seth Rollins, quoi. Et se prendre un 3-0 sec, 3-7-0 par Cody Rhodes, ça fait mal. Alors, il n'est pas forcément affaibli de trop, etc. Mais je trouve que le push serait peut-être un peu fort. Et en même temps, ça serait incompréhensible de filer la victoire à un 2-1 finalement à Seth Rollins, même pour un match en cage. Donc je suis assez partagé. Je vais aller chercher le 0 point avec mon vote de cœur. Donc Seth Rollins. Voilà.
Oh oui, il n'y a plus de surprise. Seth Rollins donc qui arriverait à vaincre Cody Rhodes et donc marquer le point pour Géliel. Irem, dis-nous tout.
Alors déjà, j'apprécie la philosophie de vie de Géliel, hein, qui il embrasse complètement sa façon de gérer ses pronos. C'est à saluer. T'as salué.
Ouais, c'est beau.
C'est vrai que bah on est un peu, c'est vrai qu'on est dans cette situation un peu étrange. Hein. On arrive à une selle avec bah, 2 victoires d'un côté, 0 de l'autre. Même si je sais pas si les compteurs comme ça sont vraiment importants, on est vraiment une espèce de guerre qui est devenue très psychologique ou qui est vraiment sur le point de complètement le devenir. Moi, je vais voter Cody Rhodes parce que clairement, il mise tellement sur lui et que Seth Rollins, c'est le mec parfait pour se prendre un 3-0 tout en restant un main eventer établi. Et que bah, voilà, on arrive sur du 2-1 après, on relance encore le truc. On est à Hell in a Cell quand même. Qu'est-ce que tu fais de plus après Hell in a Cell? Tu fais rien normalement après Hell in a Cell. Donc je pense que Cody va gagner et que Seth Rollins va très rapidement rebondir avec un autre programme qui le ramènera, j'en suis sûr, dans les pattes du fiston Rhodes avant la fin de l'année.
Là. Ouais. Ah ouais, on les reverra s'affronter encore ceux-là. Cody Rhodes gagnant pour IRM. Letty, qui c'est que tu vois des deux?
Je suis un peu d'accord avec Géliel en fait, sur cette Rollins, parce que Cody, bon, ça fait 2 fois qu'il gagne. C'est vrai que la logique voudrait que Cody gagne la dernière pour terminer l'histoire. Mais Seth Rollins, voilà, je trouve que ça fait trop de pay-per-view qu'il perd et j'ai vraiment envie de le voir gagner. Je pense pas qu'il gagne, mais pareil, le vote de cœur, ce serait plutôt Seth Rollins.
Le vote de cœur, aïe aïe aïe.
Chasse pour la lanterne rouge, comment?
C'est parti, elle veut plus, elle veut pas être dans le peloton de tête, elle joue pas la victoire. Seth Rollins donc qui gagnerait face à Cody Rhodes. Papy.
Bah, vous voyez, le si en Rollins rééquilibre les comptes, ça veut dire aussi que la rivalité va se poursuivre, quoi. Est-ce qu'ils ont encore des choses à raconter juste à deux? Je suis pas convaincu du tout. Cody, ça a l'air d'être le gros poisson de la WWE pour l'instant. Alors, je sais pas combien de temps ça pourra tenir parce qu'un les push méga babyface à ce point sur la WWE, ça tend comme toujours à plafonner au bout d'un moment et à un peu dégoûter le public au bout d'un moment. Et donc bientôt Cody Rhodes en action, bientôt Cody Rhodes en interview, bientôt ci, bientôt ça, c'est un peu saoulé tout le monde, je pense. Mais néanmoins, je pense pas que la WWE soit capable de changer de fusil d'épaule aussi rapidement et qu'ils vont continuer à appuyer comme des cochons sur le Cody. Et du coup, moi, comme un cochon et comme un gars à la poursuite de la lanterne rouge, je vais voter Seth Rollins.
Bravo, j'en attendais pas moins de papy. Non, un peu de sérieux.
Oui, on est où là?
Voilà, on est quand même censé être des spécialistes, un peu de. Bon, Cody Rhodes.
Ah bah, chacun sa spécialité, hein. Voilà.
Ouais, c'est ça, on couvre tout le spectre. C'est ça qui est important, surtout.
C'est bien. Plusieurs visions du catch. C'est l'école de la vie, ça, les enfants. Cody Rhodes. Non, moi, je vois que Cody Rhodes gagner. Je me demande s'ils vont pas partir sur une streak d'invincibilité pour Rhodes. Et clairement, surtout, moi, je vois un moonsault depuis le haut de la cage. Oui. Il va marquer le coup, Cody. Il faut qu'il fasse un truc spectaculaire. Il faut qu'il vole le show. Il n'a pas le choix. Troisième match d'affilée contre Rollins. Ça peut être répétitif. Comme du type, papy, un push de babyface. Ça fait bien, bien longtemps qu'ils n'ont pas réussi à la WWE. Cody, il a quand même l'habitude d'avoir le public qui se retourne contre lui assez facilement. Donc, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Et je pense qu'un gros spot spectaculaire à Hell in a Cell, c'est ce qu'il faut. Et on sait qu'il a pas peur de ça. On sait qu'il a déjà fait des sauts du haut de la cage à d'autres endroits, à d'autres moments. Qui mieux que lui pour taper le moonsault depuis le haut de Hell in a Cell? Alors, peut-être qu'il finira à l'hôpital et puis qu'on le verra plus pendant 6 mois. Mais j'attends pas moins qu'un spot complètement fou pour bien marquer les esprits. C'est le moment d'en profiter, en plus comme Roman Reigns n'est pas là, donc je mets mes billes, je mets tout, je mets all-in sur Cody Rhodes.
Yes.
Voilà, un peu de sérieux. Voilà, alors comme on a dit, il y a SmackDown qui doit passer vendredi, on l'a pas vu encore, il se peut qu'il y ait des matchs en plus. Donc là, on en reparlera quand on fera la review de SmackDown. En attendant, vous aussi vous pouvez participer au prono. Vous aurez le petit lien dans la description YouTube pour participer à notre grand concours catch-up. Décrocher le titre, c'est le titre roll-up, le titre de chaque pay-per-view. Ouais, ou alors c'est le titre roll up, ouais. Voilà, ou le titre suprême.
Pour l'instant, on n'a aucun champion puisque on a eu que des égalités et même le tiebreaker n'a pas été suffisant. Donc c'est si vous voulez être le premier champion primo accédant sur ce titre, eh ben ouais. C'est maintenant,
allez-y. C'est jouable. C'est jouable, c'est accessible. Voilà, marquez le coup. Maintenant, il y a le tiebreaker en plus qui est là. Donc, il y a moyen de remporter le pompon. Donc voilà, le lien pour le petit module de vote sera en description. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur les réseaux sociaux @catchupcdc. Sur Facebook, sur Instagram, voilà. Discord, vous pouvez nous rejoindre pour venir discuter. Le lien est dans la description, l'invitation. Ben voilà, on a fait le tour. Donc, ce week-end, dans un premier temps, In Your House NXT et dimanche soir, dans la nuit, sur le WWE Network, vous retrouvez Hell in a Cell. Ça doit être vers 2h, quelque chose comme ça. Donc un gros week-end de catch qui se présente. Les amis, IRM, merci beaucoup d'être venus.
Je t'en prie, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à ce gros pré-show.
Le gros pré-show, le plaisir partagé. Papy également, merci beaucoup.
Et merci à toi, Excite, pour m'avoir invité et accepté malgré mon retard.
Oui, bah ça, t'as la clé de toute façon, on n'a pas trop le choix. Letty, merci beaucoup également d'être passé pour ton premier gros pré-show. Ça t'a plu?
Merci pour l'invitation. Oui, c'était sympa de vous découvrir aussi, puisque je ne connaissais pas encore tout le monde. Donc, c'était très sympa.
Voilà, on remettra ça. Et Géliel, mon bon Géliel, merci également d'être venu.
Merci Ringside. C'était également mon premier pré-show. J'aime beaucoup le format où on se met gentiment à l'amende en attendant 2 jours de la vision du show. Non, toujours très sympa. Donc, à poursuivre. Je reviendrai.
Voilà. On remet ça le mois prochain, les enfants. Voilà, bah, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. On vous souhaite un gros week-end plein de catch. Et puis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.
Salut à tous.
Salut à tous.
On était nombreux là quand même. Hein.
Ouais, c'est sympa.
Ouais, faut se pousser quoi.
C'est ça, faut rentrer le ventre.
J'ai été prendre des chaises chez les voisins.